Bonjour à tous, c'est un policier que je vous propose cette semaine dans Évasion Romanesque. Un policier mêlé de mystères historiques qui risque fort de vous donner envie, si ce n'est de partir à l'aventure, au moins de découvrir des lieux français classés de mystiques. Apocalypse de Jacques Ravenne et Éric Giacometti. Deux auteurs liés par une vieille amitié dont je vous ai déjà parlé dans un précédent volet d'Évasion Romanesque. Éric Giacometti est journaliste. Il a mené des enquêtes sur la franc-maçonnerie dont Jacques Ravenne est l'un des maîtres. Ne vous méprenez pas, il s'agit là d'un pseudonyme. Et bien que leurs chemins aient été différents, ils sont restés très liés depuis leur rencontre à l'université. Ensemble, ils ont créé Antoine Marcas, un flic franc-maçon qui a déjà résolu une bonne dizaine d'affaires, toutes avec un lien ésotérique. Templiers et franc-maçons sont souvent au centre de leurs intrigues. Ici, dans la cinquième aventure d'Antoine Marcas, Apocalypse, sortie en 2009, ce sont les francs-maçons qui sont à l'honneur. Mais pas seulement, puisque la partie historique du roman nous fait revivre la trahison de Jésus par Judas, sa crucifixion et l'accomplissement du destin de Marie-Madeleine, mais aussi la mise au bûcher de Jeanne d'Arc et la décapitation de Louis XVI. Toutes ces péripéties historiques ont un lien. Les bergers d'Arcadie du peintre Nicolas Poussin, et plus précisément, le dessin préparatoire de l'œuvre qui a disparu dans les mains des nazis en 1943 et que Marcas, commissaire spécialisé dans le trafic d'œuvres d'art, retrouve dans les mains d'un frère de la maçonnerie qui fait dans le recel. Cette rencontre l'emmène jusqu'à Jérusalem où deux missions l'attendent. Rendre le dessin à sa propriétaire, Anna Lévy, et suivre l'arrestation d'un trafiquant d'art russe basé dans la ville sainte. Mais après qu'il ait rendu son bien à la vieille dame juive, celle-ci se fait assassiner et son bien le plus précieux lui est de nouveau dérobé. Le dessin de Poussin est dans la nature. Ce que tous les érudits savent, c'est qu'il y a un secret, un mystère au sein même de cette esquisse. Et le début du décodage entraîne Marcas et une ancienne amoureuse à Rennes-le-Château, sur les traces de l'abbé Béranger Saunière. Pour en savoir plus, c'est auprès du marquis de Pernat qu'ils se rendent, un passionné du mystère de Rennes-le-Château. Antoine, Cécile et le marquis avaient passé un portail attenant à l'église qui donnait sur une maison d'aspect ordinaire. Une petite pancarte qui indiquait « musée » trônait sur une plaque accolée au mur de pierre. Assis dans un fauteuil, engoncé dans une soutane noire, Béranger Saunière les fixait d'un regard figé. La statue de cire ressemblait à la perfection à son illustre modèle. Le marquis fit un petit signe de croix devant le curé. « Salut à toi, mon Béranger. Venez, ce que nous cherchons est à l'étage. » Marcas et Cécile se rapprochèrent. Ils n'avaient pas besoin de loupe. Les caractères étaient assez gros, visibles à l'œil nu et les erreurs plus que visibles. Des chercheurs ont travaillé des années entières pour décrypter cette dalle. En vain, personne n'avait le code, jusqu'à présent. La voix du marquis tremblait. Tant d'années passées à fouiller cette histoire sans rien trouver. Et maintenant, j'ai peur d'arriver au but. Venez, nous n'avons pas de temps à perdre. De Pernat releva la tête. « Ah, mon ami, j'ai bien cru que j'allais devenir fou !» L'érudit se massait les yeux. « Je vous passe les détails, hein. C'était à la fois simple et complexe. Les chiffres donnent un intervalle régulier de lettres que l'on doit compter sur l'épitaphe de la marquise Marie de Nègre. En appliquant ce code, on arrive à 5 lettres qui, réunies, forment le mot suivant. Nigla. C'est notre amie Cécile qui a trouvé, grâce à sa brillante culture. » La jeune femme secoua la tête. « Non, non, c'est le pur hasard. Nigla est un mot hébreu qui revient souvent. » « Ça veut dire apocalypse. J'ai trouvé autre chose. Souvenez-vous, » continua l'érudit. « Dans le bas-relief, il est écrit « Et in Arcadia ego sum Maria Magdala », ce qui fait référence au dessin. Je vous rappelle que, pour beaucoup de chercheurs, Poussin aurait peint un tombeau existant dans la région. Or, il y a bien une sépulture maçonnée à l'identique, rectangulaire avec les bouts arrondis en haut, la copie exacte du tableau, dans une propriété privée, à côté de la commune d'Arc, à quelques kilomètres d'ici. » Tenez, j'ai une photo dans un livre récent. Marcas prit l'ouvrage que lui tendait de Pernat. On y voyait un petit garçon de 5 ans debout devant le tombeau. Il le compara avec la photo du dessin et le tableau. La ressemblance était stupéfiante. Avec un petit sourire, le marquis reprit le livre et le referma. Seulement voilà, ce tombeau n'a pas été construit à l'époque de Poussin, mais seulement au siècle dernier, et il a été rasé à la fin des années 80. Antoine se leva brusquement. Ils entendirent un cri qui venait du rez-de-chaussée et levèrent la tête. Un gémissement suivit. « Vous avez entendu ?» dit Cécile avec inquiétude. « Oui, ça vient bien de la cave, » dit Pernat. « Suivez-moi. Faites attention, le plafond s'abaisse pendant la descente, » dit le marquis. Ils arrivèrent au bas de l'escalier dans une grande salle voûtée soutenue par deux colonnes de pierre rongées par une moisissure grise. Les gémissements provenaient du fond de la cave. Une forme ondulait sous une vieille couverture à carreaux. Le visage tuméfié de la cuisinière apparut. Un œil pendait de son orbite, retenu par un filet nerveux blanchâtre. Il eut un premier mouvement de recul, mais Marcas posa quand même son doigt sur le cou, à l'endroit de la carotide. Le marquis s'était assis sur le bord du tas de gravier sur lequel était couchée la cuisinière et lui caressa la chevelure. Des larmes perlèrent sur son visage. Cécile intervint. « Je ne comprends pas. Si ce n'est pas elle qui gémissait, c'est... « Vite, il faut sortir d'ici, tout de suite !» aboya Marcas. Il retrouvait ses réflexes de flic. Le tueur devait se trouver dans la cave. Les plaintes n'avaient été qu'un piège. Tout à coup, la lumière s'éteignit. Ils se retrouvèrent plongés dans l'obscurité totale. Soudain, le même gémissement plaintif résonna. La voix était aiguë, presque chantante. Antoine essayait de garder son sang-froid, mais les ténèbres l'oppressaient. Une voix masculine retentit. « Vous êtes désormais dans le royaume des ombres. Le savez-vous ? » Marcas voulut avancer vers la voix, mais à peine fit-il un pas qu'un coup le frappa en plein visage. Il s'écroula à terre. « Bande de connards, fils de pute, je te... » Le marquis ne finit pas sa phrase. Un coup de poing expédié dans son ventre le fit se courber en deux. Le souffle coupé, il s'affala. La voix reprit. « Vous êtes en Arcadie, vous aussi, comme Marie-Madeleine dans sa grotte, dans sa solitude totale. Flic chéri, nous te suivons depuis Jérusalem. Nous avons droit de vie et de mort sur vous trois. En es-tu conscient ? Que voulez-vous ? C'est vous qui avez tué Anna Lévy, vous avez le dessein !» La voix haussa d'un ton. « Où est le tombeau ?»« Jamais !» cria le marquis. « J'ai passé une partie de ma vie dans ce village à vouloir mettre la main sur le trésor. Je ne vous... » Il ne put pas finir sa phrase. Un coup de matraque s'abattit sur sa nuque. Il tomba comme une masse. « Edin, à qui le tour ?»« Le tombeau, Marcas. Où se trouve le tombeau ?» Antoine enrageait. Ils étaient pris au piège. « Ok, rallumez la lumière, céda-t-il. À la bonne heure, on va s'entendre. » Contre leur gré, mais n'ayant pas d'autre choix, le trio d'érudits dévoile ce qu'il sait et découvre, dans des conditions qu'il aurait préférées différentes, une grotte, un sanctuaire sous la Villa Negra, la maison que la famille Lévy a habitée avant de fuir la persécution nazie. À bien y regarder, c'est une réplique de l'église que Sonnière a patiemment restaurée qu'ils découvrent ensemble. À ceci près qu'en lieu et place de l'autel, il y a un tombeau, celui de Marie-Madeleine. Ce qu'il découvre à l'intérieur, à côté des ossements de la sainte, ne fait que relancer les interrogations plutôt que de répondre à toutes celles qui se posaient jusqu'alors. Ce qu'ils vont découvrir est tellement fou qu'aucun de leurs esprits affûtés n'aurait pu y penser.
L'actu des bibliothèques.
Depuis une semaine, la médiathèque de Pontcharrat a totalement rouvert ses portes. Mais évidemment, vous vous en doutez, des mesures de précaution sont à prendre et l'on vous demande de réserver votre créneau au préalable, par mail ou par téléphone. Limité à 20 minutes, toute visite se fait avec le port d'un masque. Soyez à l'heure pour honorer votre réservation et, au cas où, toutes les infos utiles vous seront données par téléphone.